Angela Davis, être noire en 1978 aux États-Unis, ça signifie quoi?
Ça signifie qu'on est toujours victime du racisme, victime de l'injustice. Et je sais que le racisme est peut-être même plus fort aujourd'hui qu'il y a 10 ans.
Un noir, ça continue à être un 3/5 d'homme?
Peut-être même moins maintenant.
Ça peut pas faire de mal.
La situation des Blancs n'est pas très bien aujourd'hui. Et c'est cela, je crois, la raison pourquoi on essaye d'encourager le racisme. Parce que les Blancs et les Noirs et tous les autres gens de couleur peuvent s'unifier. Et ceux qui ont le pouvoir ne le veulent pas. Alors ils encouragent le racisme.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal.
août 1970. Je crois l'avoir remercié, mais je n'en suis pas sûr. J'allais peut-être simplement regarder fouiller dans le sac à provisions, puis j'ai accepté la perruque qu'elle en extrayait pour moi. Elle reposait entre mes mains comme un petit animal effrayé. J'étais seul avec Hélène, fuyant la police et pleurant la mort de quelqu'un que j'aimais. Je suis allé à la salle de bain et je me suis planté devant le miroir en essayant de discipliner mes cheveux drus par un élastique étroit. Comme des ailes brisées, mes mains s'empêtraient sur ma tête. Quand je voulus enfin jeter un coup d'œil au miroir pour voir s'il restait des cheveux que la perruque ne cachait pas, j'y découvris un visage si totalement habité par l'angoisse, la tension et l'incertitude que je ne le reconnus pas. Avec ses fausses boucles noires qui tombaient sur le front ridé et les yeux rouges et gonflés, j'avais l'air ridicule. J'arrachais la perruque, je la jetais au sol et frappais le lavabo du poing. Il resta froid, blanc, impénétrable. J'enfonçais à nouveau la perruque sur ma tête. Je devais paraître normal. Il ne fallait pas que j'attire l'attention de quelqu'un qui regarderait dans notre direction. Je devais donner l'impression d'appartenir à n'importe quelle scène de la vie quotidienne de Los Angeles. Il était temps de partir. Pour la première fois depuis que nous avions découvert que la police me recherchait, je sortis. Il faisait bien plus sombre que je ne l'avais cru, mais pas assez pour que je cesse de me sentir vulnérable. Dehors, à découvert, mon chagrin et ma colère s'alourdissaient de peur. Une peur pure et simple, si puissante et si élémentaire que la seule chose à laquelle je pus la comparer était le sentiment d'engloutissement que je ressentais lorsque, enfant, on me laissait dans le noir. Cette chose indescriptible, monstrueuse, était dans mon dos. Elle ne me touchait jamais, mais elle était toujours prête à l'attaque. Ma vie était maintenant celle d'une fugitive. Toute silhouette étrange pouvait être un agent déguisé, entouré de limiers qui attendaient dans les bosquets les ordres de leur maître. Je devais apprendre à éviter l'ennemi, à le déjouer. Ce serait difficile, mais pas impossible. Cette femme qui fuit la police dans les rues de Los Angeles s'appelle Angela Davis. En 1970, elle a 26 ans. Elle vient juste d'être nommée professeure de philosophie à l'université de San Diego en Californie. Mais elle est aussi communiste, proche des Black Panthers, et elle se bat depuis des années pour libérer le peuple noir de l'oppression dans une Amérique encore ségrégationniste.
And we will no longer have to worry the federal government about our basic rights. Give us the ballot.
Après avoir été accusée à tort de complot et de meurtre, elle est contrainte de se cacher. Au terme d'une traque qui va durer plus de 3 mois, Angela Davis est arrêtée, emprisonnée et risque la peine de mort. Partout en Amérique et en Europe, l'opinion publique se mobilise pour crier son innocence. Les Rolling Stones et John Lennon lui écrivent une chanson. Aragon et Sartre défilent à Paris. Jacques Prévert lui adresse un poème.
There is a conspiracy in the land.
Il y a une conspiration dans notre pays. En quoi consiste ce complot? On veut anéantir, assassiner toutes les panthères noires, ainsi que l'ensemble de la communauté noire aux États-Unis.
Ce soir, je vous propose de découvrir cette héroïne moderne et insoumise, icône du Black Power, pour qui la révolution était une affaire d'honneur. Quand on s'engage dans la lutte, écrira-t-elle, ce doit être pour la vie. Alors, comment Angela, arrière-petite-fille d'esclave née en 1944, a fait basculer l'histoire des États-Unis? Voici son autobiographie écrite à chaud à la fin des années 70 et publiée par la romancière Toni Morrison. Elle est traduite pour la première fois en français par Cathy Bernheim aux éditions Aden. Tout commence à Birmingham, en Alabama, où Angela vit avec ses parents. Frank et Sally Davis sont tous les deux enseignants et pacifistes, très engagés dans le combat pour l'égalité des droits entre blancs et noirs. Angela est leur fille aînée. Voici ce qu'elle retient de l'année 1948. Elle avait 4 ans. Nous quittâmes les logements sociaux de Birmingham pour une grande maison en bois de Center Street. Mes parents y vivent toujours. Ses flèches, ses pignons et sa peinture écaillée lui donnaient une réputation de maison hantée. Derrière, il y avait des bois où l'on trouvait des figuiers, des buissons de mûres et des grands cerisiers sauvages. La rue elle-même était un ruban bordé de ces buissons rouges orangés que l'on voit en Alabama. Nous étions la première famille noire à nous aventurer dans ces parages, et les Blancs croyaient que nous étions porteurs de signes avant-coureurs d'une invasion massive. À 4 ans, j'avais compris que les gens d'en face étaient différents, mais je n'étais pas encore capable d'imputer leur folie à la couleur de leur peau. Ils étaient différents de nos voisins des logements sociaux par leur visage renfrogné, la façon dont ils se plaçaient à 100 mètres de nous pour nous regarder fixement, leur refus de parler quand nous disions bonjour. Les Monty, le plus vieux des couples, habitant de l'autre côté de la rue, s'asseyaient constamment sous le porche de leur maison, les yeux chargés de haine. Presque immédiatement après notre installation, les Blancs se rassemblèrent et décidèrent d'une frontière entre eux et nous. Center Street devint une ligne de démarcation. Ils nous firent savoir que dans la mesure où nous restions de notre côté de la ligne, le côté est, nous serions laissés en paix. Si jamais nous traversions de leur côté, la guerre serait déclarée. Nous cachâmes des fusils dans notre maison et notre vigilance fut constante. À quelques 50 mètres de cette haine se déroulait notre vie quotidienne. Ma mère, qui attendait un autre enfant, ma sœur Fania, venait de quitter son poste d'enseignante et s'occupait de mon plus jeune frère, Benny. Mon père allait à la station-service chaque matin dans son camion orange après m'avoir déposé à l'école maternelle. Peu après notre arrivée sur la colline, les Blancs commencèrent à quitter le quartier et des familles noires à s'y installer, achetant des maisons ou en construisant de nouvelles. Les Deyaber, un pasteur noir et sa femme, s'installèrent sur le territoire blanc. Ils construisirent leur maison juste à côté des Monty, les gens aux yeux remplis de haine. C'était un soir de printemps 1949. J'étais dans la salle de bain où je lavais mes lacets blancs pour les mettre le lendemain à l'école du dimanche, quand une explosion 100 fois plus forte et plus effrayante que tous les coups de tonnerre jamais entendus secoua notre maison. Les bouteilles de médicaments dégringolèrent des étagères, éclaboussant tout autour de moi. Dans ma course vers la cuisine et les bras tremblants de ma mère, le sol semblait se dérober sous mes pieds. Une foule de noirs en colère monta sur la colline et se rassembla de notre côté pour contempler les ruines qu'était devenue la maison des Deyaber sous l'effet de la bombe. Tard dans la nuit, ils parlèrent de mort, de la haine des Blancs, de mort, des Blancs et de mort encore. Mais de leur propre peur, ils ne dirent rien. Apparemment, elle n'existait pas, car les familles noires continuaient de s'installer. En réponse, les attentats furent si fréquents que bientôt notre quartier fut connu sous le nom de Dynamite Hill. Plus notre environnement plongeait dans la violence, plus mon père et ma mère insistaient pour que je sache, moi, l'aîné, que la bataille des Blancs contre les Noirs n'était pas écrite dans la nature des choses. Au contraire, disait ma mère, Dieu exhortait à l'amour. Elle essayait de désamorcer la rage par la raison. Elle avait eu des contacts avec des Blancs profondément engagés dans l'amélioration des relations entre les races. Elle avait participé en tant que lycéenne à des mouvements antiracistes et elle faisait tout pour que sa petite fille, tant habitée de haine et de confusion, considère les Blancs non pas pour ce qu'ils étaient, mais en termes de potentialité. Elle ne voulait pas que je pense aux fusils cachés dans les tiroirs, ni à la femme noire venue chercher en hurlant du secours à notre porte, mais à un monde d'harmonie et d'égalité. Je ne savais pas de quoi elle parlait. Angela Davis.
Mon père, il avait des armes parce qu'il fallait, nous avons reçu des menaces, il fallait pouvoir se défendre parce que tout le gouvernement municipal, c'était pendant
un moment où George Wallace était gouverneur. Alors, c'était la police, c'était le chef du département de police qui a provoqué, qui a organisé ces explosions. C'est qui a dit au Ku Klux Klan qu'il y a une famille noire qui a acheté une maison qui est dans la partie de la ville qui est la partie blanche. Alors, il disait à la radio, ce soir, nous allons voir du sang partout, parce que les Noirs n'ont pas le droit d'envahir nos communautés.
Les souvenirs d'enfance d'Angela Davis sont parsemés par ces chocs qui vont la marquer à jamais. La fillette a l'habitude de discuter de longues heures avec ses camarades et de s'interroger sur cette haine que rien n'explique. Un jour, elle découvre le sens du mot « racisme » et cherche comment le combattre. Dans sa ville, les Noirs ne sont pas libres de leur mouvement. Plusieurs lieux publics sont strictement réservés aux Blancs, ce qui attise sa curiosité. Mes amis d'enfance et moi-même ne pouvions que faire preuve d'une attitude ambivalente envers le monde blanc. Nous étions poussés d'un côté par une aversion instinctive envers ceux qui nous empêchaient de réaliser nos désirs, fussent-ils les plus ambitieux ou les plus simples, d'un autre côté par une jalousie tout aussi instinctive, parce que nous savions qu'ils avaient accès à toutes les choses agréables que nous convoitions. À cette époque, je ne parvins pas à me débarrasser des rêves qui m'encombraient la tête. Aussi, afin que ces rêves ne contredisent point mes principes, j'avais inventé une histoire dans laquelle je me glissais derrière un masque blanc qui me permettait d'aller sans cérémonie au cinéma, dans le parc d'attractions, où je voulais. Après m'être bien amusé, je faisais une apparition dramatique et grandiloquente devant les racistes blancs et dans un geste décisif, arrachais le masque blanc en riant sauvagement et en les traitant tous de fous. Des années plus tard, pendant mon adolescence, je me souviens de ce rêve d'enfant et décidai de le réaliser. Ma sœur Fania et moi étions en train de descendre en ville à Birmingham quand je lui proposais spontanément un plan. Nous allions faire semblant d'être des étrangères et en nous parlant français, nous entrerions dans le magasin de chaussures de la 19e rue demander avec un fort accent à voir une paire de chaussures. À la vue de deux jeunes femmes noires qui parlaient une langue étrangère, les employés du magasin se précipitèrent pour nous aider. Leur goût de l'exotisme suffit, bien que temporairement, à dissiper leur mépris habituel du peuple noir. Donc Fania et moi, nous ne fûmes pas dirigés sur le fond du magasin, hors du champ de vision des clients blancs respectables. Nous fûmes invités à prendre place en devanture de ce magasin soumis à la loi Jim Crow. Je faisais semblant de ne pas parler du tout anglais, et l'anglais écorché de Fania était extrêmement difficile à saisir. Captivé par l'idée de parler à des étrangères, mais frustré par le manque de communication, les employés firent chercher le directeur. Son attitude fut identique. Avec un sourire géant, il sortit des coulisses en disant « Alors, que puis-je faire pour vous, mes jolies dames ?» Mais avant de laisser ma sœur décrire les chaussures que nous cherchions, il s'inquiéta de notre histoire. « Il est très rare que nous ayons l'occasion de rencontrer des gens comme vous, vous savez. » Fania eut beaucoup de mal à raconter notre histoire improvisée. Au bout d'un certain nombre de tentatives, toutefois, le directeur parvint à comprendre que nous venions de la Martinique. Chaque fois que cet homme parvenait à saisir quelque chose, ses yeux s'éclairaient et sa bouche s'ouvrait sur un large « Oh !» Il était totalement fasciné quand Fania se tournait vers moi et me traduisait ses paroles. Les Blancs qui entraient dans le magasin étaient étonnés de voir deux personnes noires assises dans le secteur réservé, mais quand ils entendaient notre accent français, ils semblaient tout heureux et impressionnés. Finalement, je fis signe à Fania qu'il était temps de découvrir notre jeu. Nous regardâmes le patron, son visage stupide et sa grimace obséquieuse, l'œil débarrassé des lueurs de mépris qu'il aurait sans doute allumé avec l'automatisme d'un hamster s'il avait su que nous habitions la ville, et nous éclatâmes de rire. Il commença à rire avec nous en hésitant. « Y a-t-il quelque chose de drôle ?» murmura-t-il. Soudain, je me mis à savoir l'anglais et je lui dis ce qui était si drôle. Tout ce qui reste à faire aux Noirs, c'est donc de prétendre qu'ils viennent d'un autre pays. Et en riant toujours, ma sœur et moi, nous nous levâmes et quittâmes le magasin. J'avais suivi presque de A à Z le scénario de mon rêve d'enfance.
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne. Got a sweet like an angel up upon the mountain. Well, she ain't no singer.
got in chains. But you keep on pushing. What you take or pay? She counting up your meaning. Counting up your debt. She's a freak that ain't dead. Judging on the judge of all that is a word. But you got in danger, got in chain. You keep on pushing. What you do the same? She counting up the meaning. She counting up the dead. She's a sweet black angel.
Angela rêve de jours meilleurs et aiguise son esprit à la littérature et à la philosophie. La découverte de Victor Hugo est décisive. Comme l'auteur des Misérables, l'injustice la scandalise et elle veut croire qu'une révolution est possible.
L'histoire du peuple noir aux États-Unis, c'est une histoire de combativité. Il faut résister, il faut lutter. Non seulement pour changer les circonstances d'oppression, mais simplement pour pouvoir vivre.
Le 4 décembre 1955, elle est fière d'apprendre qu'à Montgomery, une certaine Rosa Parks a refusé de retourner s'asseoir à l'arrière d'un bus. Elle se réjouit aussi de savoir que Martin Luther King mène la lutte pour l'égalité des droits. Après des années lycées passées à New York, elle intègre l'université de Brandeis, Massachusetts, et suit des cours de philosophie. Dans l'amphithéâtre réunissant les premières années, il y a 3 Noirs, dont elle. Ses convictions se sont affirmées. Séduite par le manifeste communiste, elle fait partie de diverses organisations étudiantes et assiste un jour, par hasard, à une allocution de Malcolm X.
You don't have a revolution desegregating the toilet. You don't have a revolution desegregating the lunch counter. You don't have a revolution desegregating the theater. There's no such thing as a peaceful revolution. There's no such thing as a bloodless revolution.
La révolution non sanglante, ça n'existe pas. La révolution non violente, ça n'existe pas.
Ses études l'amènent à visiter Paris et à entreprendre un mémoire sous la direction d'Herbert Marcuse avant de s'installer à Francfort pendant un an. Loin des siens et de son pays, toujours à feu et à sang, elle réfléchit à la vie qu'elle veut désormais mener. 1964. Alors que j'étais en Allemagne de l'Ouest, le mouvement de libération noire subissait des métamorphoses décisives. Le slogan « pouvoir noir », « Black Power », jaillissait au cours d'une marche dans le Mississippi. Les organisations étaient transfigurées. Le comité de coordination des étudiants non violents, une des principales organisations pour les droits civiques, devenait partisan du Black Power. Le congrès sur l'égalité raciale subissait les mêmes transformations. Dans les groupes politiques, dans les syndicats, dans les églises et dans les autres organisations, des sections noires se formaient pour défendre les intérêts spécifiques du peuple noir. Partout, il y avait des soulèvements. Pendant que je lisais des ouvrages philosophiques à Francfort et participais à la Ligue des étudiants socialistes allemands en arrière-garde, des jeunes gens noirs à Oakland, en Californie, avaient décidé de prendre les armes pour protéger les résidents de la communauté noire de la ville contre la brutalité aveugle de la police qui sévissait dans la région. Huey Newton, Bobby Seale, Lil Bobby Hutton, tels furent les noms qui m'atteignirent. Un jour, je lus l'histoire de leur apparition dans l'immeuble du corps législatif de Californie à Sacramento, quand, munis de leurs armes, ils décidèrent de défendre leurs droits, de les porter sur eux comme des instruments d'autodéfense. Le nom de cette organisation était « Parti des Panthères Noires pour l'autodéfense ». Plus les luttes qui avaient lieu chez moi s'accéléraient, plus je me sentais frustré d'être forcé de les vivre par personne interposée. Mes études avançaient, mes connaissances en philosophie s'approfondissaient, mais je me sentais de plus en plus isolé. J'étais si loin de la bataille. Mon dilemme était net. Le désir de lutter dans mon pays était incompatible avec la nécessité de rester à Francfort jusqu'à la fin de la préparation de mon doctorat. Mais chaque jour, il devenait plus clair que mon aptitude à accomplir quoi que ce fût dépendait directement de ma contribution concrète à la lutte. Adorno avait accepté de diriger mes travaux pour une thèse de doctorat. Marcuse avait déjà consenti à travailler avec moi à l'université de San Diego où il avait accepté un poste. Je voulais continuer mon travail universitaire, mais je savais que je ne pourrais y parvenir qu'en m'engageant politiquement. La lutte était à vif, notre seule chance de survie. J'étais décidé, le voyage commençait. De retour aux États-Unis, Angela Davis se fait vite remarquer. Sa coupe afro, son allure et son franc-parler séduisent les membres du Black Power. Elle devient l'une des figures centrales du mouvement et entend réunir tous les étudiants noirs américains. Tous les jours, dans les alentours de Los Angeles, elle fait du porte-à-porte et tente de sensibiliser les gens à sa cause. Elle se souvient. « Nous avions l'impression d'avoir une énergie d'étalon et une confiance d'aigle. La fraternité était à son comble parce que nous faisions quelque chose pour notre propre peuple, ouvertement, librement et au grand jour. » Tels de nouveaux alchimistes, nous allumions le feu et comptions sur sa chaleur pour mettre au point la recette de notre victoire. Mais le sentiment de joie est vite balayé par de tristes nouvelles. Les attaques à l'encontre de leur mouvement se multiplient et surtout Martin Luther King est assassiné en avril 1968. Difficile alors pour Angela de désamorcer la colère. Son doctorat de philosophie en poche, elle devient enseignante à l'université de San Diego et crée la faculté Lumumba Zapata, réservée aux étudiants opprimés. Membre active des Black Panthers, elle est aussi surveillée de près par le gouvernement et bientôt renvoyée de l'université par une loi qui interdit à l'État d'employer des communistes. Isolée, rejetée, elle ne peut plus se déplacer sans protection et craint sans cesse de se faire arrêter. Mais si elle est devenue un symbole à détruire, elle est bien décidée à continuer la lutte. Un jour, en lisant le journal, elle tombe sur l'histoire des prisonniers de Soledad. 1969. Vers la mi-février, en parcourant le Times de Los Angeles, je tombais sur la photographie en première page de trois hommes noirs impressionnants. Ils avaient des visages sereins qui exprimaient la force. Mais leurs torses étaient entourés de chaînes. Des chaînes qui maintenaient leurs bras sur les côtés et qui leur entravaient les pieds. Dans la rage et la frustration, je commençais à lire l'histoire. Il s'agissait de la prison de Soledad. Soledad est un mot-clé dans la communauté noire. Ces deux dernières années passées à Los Angeles, je l'avais au moins entendu 1 million de fois. Il y avait San Quentin, il y avait Folon et il y avait Soledad. En espagnol, Soledad signifie solitude. La prison de solitude. Le Times racontait que les trois hommes noirs sur la photographie, George Jackson, John Clutchett et Flita Drumgo, étaient inculpés pour le meurtre d'un gardien de prison de Soledad. Un mois entier s'était écoulé depuis l'assassinat. Pourquoi avait-il mis si longtemps à prononcer l'inculpation? L'article était évasif. Si on le prenait à la lettre, on ne pouvait qu'être convaincu de la culpabilité des trois hommes. Les jours suivants, je ne cessais de penser au visage de ses frères. Trois beaux visages virils qui tranchaient sur l'horrible grisaille de la vie en prison. Ils me hantaient. Je savais que dans la prison de Soledad, la ségrégation était presque totale. Toutes les activités étaient organisées de façon qu'il n'y ait pas de mélange de races, ou bien, quand cela avait lieu, à favoriser les bagarres éventuelles. Soledad avait mis en place, avec l'aide de certains prisonniers blancs, sa propre annexe du Ku Klux Klan, un groupe qui s'appelait la Fraternité Aryenne. Un jour, sans explication, les gardiens envoyèrent les prisonniers noirs, chicanos et blancs, faire leur gymnastique ensemble dans une cour qui venait d'être aménagée. Pas un gardien ne fut désigné pour les accompagner. L'explosion était inévitable. La bagarre éclata entre un prisonnier noir et un autre blanc. O.J. Miller, tireur d'élite qui avait la réputation d'être un raciste de choc, était de garde ce jour-là dans le Mirador. Il pointa soigneusement sa carabine et tira plusieurs fois. Trois hommes tombèrent. Tous trois étaient noirs. Quelques jours plus tard, le grand jury du comté de Monterrey était convoqué. O.J. Miller fut déchargé de toute responsabilité dans la mort des trois prisonniers. Le grand jury déclara qu'il n'avait fait que commettre un homicide justifié. Alors les prisonniers noirs de Soledad avaient essayé de remettre en question l'aval juridique de cet assassinat manifestement raciste. Spontanément et avec l'intense désespoir des hommes enchaînés, ils avaient lancé contre l'assassin O.J. Miller des menaces qu'ils ne pouvaient exécuter et avaient frappé rageusement contre les barreaux de leurs cellules. La prison de Soledad battait au rythme de la résistance. Un gardien s'était trouvé par inadvertance à portée de la révolte des prisonniers et avait sombré sous leur désir collectif de révolte. Personne ne savait qui avait poussé le gardien par-dessus la balustrade. C'était le début de l'histoire de George Jackson, John Clutchett et Flita Dromgo que je venais de lire dans le Times. Il n'y avait aucune preuve qu'ils avaient tué le gardien. Mais la bureaucratie pénitentiaire s'apprêtait à les tenir pour symboliquement responsables de la révolte spontanée des prisonniers. Ils furent accusés du meurtre du gardien et risquaient la peine de mort. Je pensais à eux. Il nous fallait trouver un moyen de leur faire savoir qu'ils n'étaient plus seuls, que des milliers de volontés allaient se battre pour eux. Le jour du procès, dans la salle surpeuplée du tribunal, le silence vibrait de la frustration des gens que la présence tangible de l'ennemi excitait. Nous n'avions pas peur, nous ne nous sentions pas impuissants. Et nous applaudîmes vigoureusement les héros de notre lutte quand ils entrèrent dans la salle du tribunal avec fierté, courage et force. Les chaînes qui entravaient leurs membres ne nous impressionnaient pas. Elles étaient là pour que nous les brisions, les détruisions, les écrasions. La vue de ces entraves nous incitait seulement à arracher le métal de leurs poignets, de leurs chevilles. Je savais que ma propre colère était celle de tous. La bile me montait à la gorge. Mais la présence des frères était plus forte encore que le sentiment d'affront que nous avions, car les frères étaient beaux. Enchaînés, entravés, ils semblaient immenses et ils étaient beaux. Durant le procès, Angela Davis correspond beaucoup avec l'un des trois accusés, George Jackson, qui a décidé d'écrire un livre, « Les frères de Soledad ». Ils deviennent amis. Tous attendent la suite et espèrent que leur innocence sera prouvée. La justice décide de déplacer le procès à Saint-Quentin. Le jour de la première audience, dans le tribunal du comté de Marin, un autre procès précède celui de Soledad. Le jeune James McLean, inculpé d'agression, assure lui-même sa défense, entouré de deux témoins, des amis à lui, prisonniers aussi. À ce moment, le jeune frère de George, Jonathan, fait irruption dans la salle comble, armé d'une carabine, et demande la libération immédiate des frères Soledad. Sans même attendre de réponse, il prend le juge Allais en otage, aidé par McLean et ses comparses, et sort du tribunal. Dehors, une fusillade commence, Jonathan meurt sous les balles, tout comme le juge Allais et les deux jeunes prisonniers. Dans la salle, Angela Davis, désespérée, a tout vu. Très vite, on l'accuse d'être à l'origine de ce bain de sang et d'avoir même fourni l'arme du crime. Recherchée par le FBI, elle n'a plus le choix. Il lui faut fuir et se cacher. Durant 3 mois, la police arrête des centaines de femmes qui lui ressemblent. Sa famille et ses amis sont traqués, sa photo affichée à chaque coin de rue avec l'inscription « armée et dangereuse ». Souvent, elle se déguise et se terre chez des amis qui veulent bien l'héberger. En octobre 1970, accompagné de son ami David qui la protège et ne la quitte pas un instant, ils prennent un hôtel à New York. Un soir, fatiguée de rester cloîtrée, elle décide d'aller au cinéma. Le film se termina un peu avant 6 heures. Nous ne parlions guère, David et moi, en regagnant l'hôtel. Nous avions dépassé les magasins de la 8e avenue quand soudain j'eus l'impression d'être entouré d'agents de police et au moment où nous passions à la porte vitrée de l'hôtel, je fus prise d'une envie de tourner les talons pour me replonger dans la foule anonyme. Dans le couloir, tous les Américains blancs qui traînaient là confirmaient mes craintes. J'eus la certitude que ces hommes étaient des agents disposés en formation convenue et qu'ils se préparaient pour l'attaque. Mais il ne se passa rien. Je me demandais ce que pensait David. Il était capable de cacher sa nervosité dans les situations critiques. Au-delà du comptoir de la réception, j'eus un soupir de soulagement. Rien ne nous avait arrêtés. Ce n'était probablement qu'un jour normal dans la vie de ce motel new-yorkais. Je commençais à peine à respirer quand un blanc rondouillard et rougeau dont la coupe de cheveux courte et réglementaire pouvait bien être celle d'un policier monta dans l'ascenseur avec nous. Mes craintes se ravivèrent. Je montais à mon habituel soliloque, sans doute un fonctionnaire. Comme j'en avais pris l'habitude en vivant dans la clandestinité, je restais en arrière, à quelques mètres de David, pendant qu'il passait devant pour vérifier la chambre. Pendant qu'il tournait la clé dans la serrure, ce qui sembla présenter plus de difficultés que d'habitude, quelqu'un ouvrit une porte de l'autre côté du couloir. Une frêle silhouette passa en nous dévisageant. Quelque chose me dit que le dernier acte avait commencé et que cet homme devait en avoir le premier rôle. J'eus l'impression de sentir quelqu'un derrière moi, alors je redressai la tête et commençai à marcher vers ma chambre à grands pas et avec confiance. Au moment où je passais devant la porte ouverte qui était en face de ma chambre, l'homme frêle tendit la main et m'attrapa le bras. Un bon nombre d'agents se pressèrent derrière lui tandis que d'autres surgissaient d'une chambre située de l'autre côté du couloir. « Angela Davis, êtes-vous Angela Davis ?» David et moi n'étions pas armés. S'ils sortaient leurs armes, nous n'avions aucune chance. Ils traînèrent David dans une chambre à droite et me firent entrer à gauche. Là, ils arrachèrent ma perruque, me passèrent les menottes derrière le dos et prirent sur le champ mes empreintes digitales. « Êtes-vous Angela Davis ?»« Angela Davis ?»« Angela Davis ?» Je ne dis rien. Et tandis que je me tenais là bien déterminé à rester digne, ils mirent en place un plan minutieux pour me faire sortir. Je les entendais alerter d'autres agents qui s'étaient tenus à divers endroits à l'intérieur et à l'extérieur du motel. Toutes ces précautions, ces douzaines d'agents, tout cela corroborait parfaitement l'image de moi qu'ils avaient construite de toutes pièces, en me déclarant l'un des 10 criminels les plus recherchés du pays, la grande méchante ennemie noire et communiste. Angela Davis est officiellement inculpée de meurtre, kidnapping et conspiration. Elle est emprisonnée et mise à l'isolement. Cela va durer 16 mois. Son quotidien carcéral est rude. Sa cellule est insalubre. On lui prescrit des tranquillisants. Un agent la surveille 24 heures sur 24. Elle proteste et commence même une grève de la faim. La prison restera une cause qu'elle ne cessera de défendre après en être sortie. 7e étage, corridor C. Ma cellule était la plus petite. Les meubles fixes, un lit, un cabinet, étaient alignés si bien que l'espace au sol n'atteignait jamais un mètre. Les co-détenus m'aidèrent à installer un rideau improvisé devant l'évier et les cabinets pour qu'on ne puisse pas le voir depuis le corridor. Elles me montrèrent comment du papier journal enveloppé dans un torchon pouvait servir de couvercle au cabinet, transformé ainsi en chaise devant laquelle on pouvait rabattre la table en fer fixée au mur d'en face. Je ris tout haut à l'idée d'être assis sur les cabinets pour faire mes écritures. Le couvre-feu approchait. Une des sœurs se rappela qu'elle avait oublié de me mettre en garde contre un des dangers de la vie nocturne de la maison. « Mickey essaiera sûrement d'entrer dans ta cellule ce soir, » dit-elle. « Et il faudrait prendre les mesures d'éloignement nécessaires. » « Mickey ? » S'agissait-il d'un satyre que les geôliers lâchaient la nuit pour tourmenter les femmes ? La sœur me dit en riant qu'elle parlait d'une souris qui errait dans l'obscurité des corridors à la recherche des portes de cellules qui n'étaient pas colmatées. Cela devint un rite. Je remplissais le petit espace sous la porte de journaux soigneusement pliés et j'en mettais aussi le long de la porte et du mur. En dépit des mesures préventives que nous prenions, Mickey parvenait toujours à se frayer un chemin en grignotant la barricade et nous étions souvent réveillés par les cris d'une femme priant la surveillante de faire sortir la souris. Une nuit, Mickey me rejoignit sous la couchette du haut. En le sentant grimper sur mon cou, je le balayais de la main, pensant que c'était un cafard. Quand je compris de quoi il s'agissait, je réclamais un balai, notre seule arme contre lui. Apparemment, les pièges à rats étaient trop chers et on n'avait pas l'intention de l'exterminer. La lutte quotidienne qui nous opposait à Mickey était en quelque sorte le symbole de la lutte sur un champ plus vaste que nous menions contre le système. Laissant mon imagination s'enflammer, il m'arrivait parfois d'imaginer que les barricades que nous élevions la nuit pour nous protéger du rongeur étaient semblables à celles que nous érigions contre l'ennemi plus puissant. Et que des centaines de femmes ayant acquis une conscience politique et s'étant engagées s'unissaient dans une action révolutionnaire. Ce soir-là, un peu après que la sœur m'ait aidé à bourrer le bas de la porte de journaux, une surveillante cria « C'est l'heure du couvre-feu, rentrez dans vos cellules !» Les femmes, tirant à elles les lourdes portes de fer, firent entendre à travers les 4 corridors du 7e étage un tonnerre assourdissant de claquements métalliques. L'écho s'en propageait à travers toute la prison. La première fois que je l'entendis, je crus qu'une révolte avait éclaté. La surveillante passa pour recenser chaque prisonnière, et à 9h du soir, toutes les lumières furent éteintes. Le rite du bonsoir s'effectuait dans l'obscurité. Une sœur le souhaitait à une autre en criant son nom. Celle-ci, reconnaissant la voix, criait le nom de la première sœur en lui souhaitant à son tour le bonsoir. Très vite, quelqu'un cria avec chaleur « Bonsoir Angela !» Mais comme je ne connaissais le nom de personne et pas assez pour reconnaître la voix, j'étais encore exclu du rite et je ne pus que répondre un pauvre « bonne nuit ». Ma réponse fit jaillir des souhaits de bonne nuit à mon intention, qui ne venaient pas seulement de mon corridor, mais aussi des autres. Je suis certaine qu'il n'y eut jamais de bonne nuit si prolongée.
Demain à Paris, manifestation de soutien pour Angela Davis, pour demander la libération de la jeune universitaire noire communiste qui se trouve dans une prison de Californie.
Tous les jours, Angela Davis reçoit des lettres de soutien. La chanteuse Nina Simone se déplace même pour lui rendre visite dans sa cellule et lui redonner du courage. À Paris, près de 10 000 personnes défilent pour obtenir sa libération. Dans le cortège se trouvent Jean Genet et Louis Aragon. Les mois passent et en août 1971, elle apprend la mort de George Jackson, tué dans la cour de la prison de Saint-Quentin, 3 jours avant la reprise de son procès. Rongée par le chagrin, elle reprend espoir quand elle apprend qu'Aretha Franklin est prête à payer sa caution qui s'élève à 102 000 dollars. Mais la chanteuse est retenue à l'étranger pour ses concerts. C'est finalement un fermier blanc de Californie qui fera le chèque et s'exposera à de graves représailles. Son bétail sera abattu une nuit par le Ku Klux Klan. Voici donc Angela prête à sortir de prison. Février 1972. Chaque seconde d'attente ressemblait aux mois et aux saisons que j'avais passé à attendre derrière les barreaux. Je n'arrivais pas à me dépouiller assez vite de cet horrible uniforme de prison pour mettre le pantalon violet que Kendra avait apporté. Mes mains tremblaient tellement que je n'arrivais pas à m'habiller. Pourtant, une seconde plus tard, j'étais dehors, attendant devant le bureau d'enregistrement que les geôliers, bouillant intérieurement de rage, appuient sur les boutons qui allaient donner leur envol aux grilles. La première grille glissa et s'ouvrit avec une lenteur à me rendre folle. Un pas et le seuil en fut franchi. Le cœur battant, j'attendis que la grille claque derrière moi, avec ce bruit détestable qui m'avait souvent vrillé les nerfs. Cette fois-ci était la dernière. Je franchis la deuxième grille qui s'ouvrait devant moi et fus accueilli par un immense tumulte. Je pris dans mes bras la première personne qui se trouvait là. Refus, un frère que j'avais connu à Los Angeles. J'avais envie d'embrasser toutes les sœurs et tous les frères de cette foule. La prison, les shérifs, les chaînes, tout cela était loin derrière. Pour des raisons de sécurité, nous dûmes quitter les alentours de la prison le plus vite possible. Margaret et moi grimpâmes dans une Mustang jaune et nous nous frayâmes un chemin à travers les sympathisants et les reporters qui s'étaient approchés de la voiture. En filant sur l'autoroute, nous hurlions, rions et nous embrassions tous. J'étais dehors. Plus de gardes, plus de voitures de police, plus de menottes. Quand nous entrâmes dans la maison de mes amis Bettina et Jack, mon visage me faisait mal tellement j'avais ri et souri. Hollis, le fils de Margaret qui avait 6 ans, et Joshua, celui de Bettina et Jack, se trouvaient là tous les deux. Avec cette tendresse particulière des jeunes enfants, Joshua me demanda « Angela, est-ce que tu es vraiment libre ?» Et Hollis était dans une telle extase qu'il jeta ses bras autour de mon cou. Les membres de l'équipe nationale, les leaders et les militants du comité de région étaient tous rassemblés sous le même toit. Pour la plupart, c'était la première fois que je les rencontrais, toutes ces sœurs et tous ces frères merveilleux qui avaient arraché ma vie des mains sans couleur de la persécution raciste. Toute la soirée, un flot ininterrompu ne cessa d'affluer. Au milieu de tout cela, j'attrapais le téléphone et composais le numéro de Birmingham. Ma mère et mon père. Connaissant leur profonde douleur et leur dévouement total à la lutte, je me sentais presque plus heureuse pour eux que pour moi. Notre émotion était si profonde que le téléphone nous sembla être plus un obstacle qu'un moyen de communication. Puis j'appelais mon frère Benny et sa femme Sylvia, puis Charlène, Winnie et tous ceux qui m'avaient soutenu. Ils m'attendaient avec impatience. Mais comme la libération sous caution mentionnait que je n'avais pas le droit de parler ni d'être présente dans aucun rassemblement important organisé par le comité, on me suggéra de ne pas y aller. Pourquoi y serais-je allé? La première violation des conditions de ma libération pouvait être l'occasion de me renvoyer en prison. Valait-il mieux que je me tienne tranquille et suive à la lettre les ordres du juge? Ordre du tribunal ou pas, je n'avais de compte à rendre qu'à ceux qui s'étaient battus avec moi et pour moi. Et si je devais, en remplissant mes obligations envers eux, risquer ma liberté, qu'il en soit ainsi. Si je restais avec le peuple, je ne serais jamais seul.
Guillaume Gallienne sur France Inter.
Un peu de lecture, ça peut pas faire de mal.
put a spell on you. Cause you're mine. Do, 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 do. You better stop the things you do. I ain't lying. No, I ain't lying. You know I can't stand it. You're running around. You know better, Daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Yeah, yeah. Put a spell on you because you're mine.
Quelques mois plus tard a lieu le dénouement du procès. Voici la dernière page de l'autobiographie d'Angela Davis. 4 juin 1972. Quelque part dans la foule, une voix commença à fredonner doucement un négro spirituel. Quelqu'un d'autre reprit l'air, y ajoutant les paroles « Me suis réveillé ce matin, l'esprit plein de liberté ». En peu de temps, tout le monde s'y était mis, même ma mère. Le capitaine Johnson, qui avait été la terreur de la presse et des gens qui assistaient au procès, sortit, regarda autour de lui et, pour la première fois, ne trouva rien à dire. Enfin, nous prîmes place dans la salle du tribunal. L'huissier annonça l'entrée du juge. Puis le jury commença à passer la porte. À la vue du premier juré, Margaret, qui avait été la plus calme de nous tous, laissa échapper un « Oh non !» étouffé et s'enfonça dans son fauteuil. Je me penchai sur elle et j'eus pour elle les mêmes mots de réconfort qu'elle avait eus pour moi. Elle sanglotait doucement. Je regardai les jurés entrer un à un, cherchant des signes rassurants sur leur visage, mais tous étaient inexpressifs, comme s'ils étaient défaits de toute trace d'émotion. Je fus soudain couverte de sueur et sentis tout mon corps s'affaiblir. Ces visages semblaient dire « condamné, coupable ». Mais c'était impossible, illogique, absurde. J'avais envie de me précipiter dehors et d'épargner à ma mère les conséquences de tout cela. Née du désespoir et de l'incompréhension, ces pensées décousues me secouèrent tellement que je dus faire un effort pour écouter le greffier lire tous les documents. Le premier chef d'accusation était le meurtre. Le non coupable sonna haut et clair. De lourds sanglots se firent entendre dans le moment de silence qui suivit. Le second chef d'accusation était le kidnapping. Le non-coupable sonna à nouveau. Restait le dernier verdict, celui sur la conspiration. De ma main droite, je serrai la main de Kendra, de la gauche, celle de Margaret. Quand le greffier lut « non-coupable » pour la troisième fois, nous nous mîmes à hurler, rire, pleurer et nous embrasser, ignorant totalement le marteau du juge. Il lut un passage de « 12 Men » de G.K. Chesterton, remercia la défense, l'accusation et les jurés, démit ces derniers de leurs devoirs et déclara close l'affaire numéro 52-61-33, État de Californie contre Angela Yvonne Davis. Dans sa joie, ma mère était si belle qu'elle me faisait penser à des photographies de sa radieuse jeunesse. Du tribunal, nous allâmes chez Gloria et David, où séjournaient mes parents, la famille, les avocats, les amis, les camarades, ceux qui travaillaient au comité et la plupart des jurés. Tous, nous nous assîmes sur l'herbe du jardin. Je plongeais tout entière dans cet instant, cultivant le plaisir, l'amassant comme un trésor, car je savais qu'il aurait la vie courte. Le travail, la lutte, l'affrontement nous attendaient comme un chemin caillouteux. Nous saurions le parcourir.
Je voudrais vous demander si cet acquittement vous a fait changer d'avis sur la justice de votre pays.
Pas du tout, pas du tout. En effet, je suis sûre que s'il n'y avait pas eu ce mouvement de masse, s'il n'y avait pas eu les milliers, les millions de personnes qui ont participé sur un niveau ou un autre niveau dans ce mouvement, je serais maintenant en prison, j'en suis sûre. Et aussi, il y a tellement d'autres victimes d'une même persécution qui sont maintenant en prison. Il y a littéralement des centaines de prisonniers politiques dans les prisons aux États-Unis. Et on ne peut pas du tout oublier qu'il y a des milliers de gens en prison simplement parce qu'ils sont noirs, simplement parce qu'ils sont mexicains, puertoricains.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission, réalisée par Xavier Pestugia avec Jean-Louis Deloncle à la technique, a été préparée par Estelle Gap, Laura El-Maki et Valérie Bourg. Bonne journée et à demain.